patience, nous sommes presque arrivés. Tiens, écoute plutôt les dernières nouvelles, ça te distraira. L'expédition ethnographique Sanders Hartmut vient de rentrer en Europe après un long et fructueux voyage au Pérou et en Bolivie. Les explorateurs ont traversé des territoires fort peu connus où ils ont découvert plusieurs tombeaux incas.
Toute cette histoire finira mal.
Qu'est-ce qui finira mal, monsieur ?
Eh bien, cette histoire de mamie. Souvenez-vous de Toutankhamon, jeune homme. Songez à tous les égyptologues qui sont morts mystérieusement après avoir ouvert le tombeau de ce pharaon. La même chose arrivera à ceux qui ont violé la sépulture de cet Inca. Aussi, pourquoi ne laisse-t-on pas ces gens tranquilles ? Que dirions-nous si les Égyptiens ou les Péruviens venaient chez nous ouvrir les tombeaux de nos rois ? Hein ?
Histoire 2, Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tintin a raison, les archéologues ouvrent le tombeau de nos rois et avec eux, le coffre à merveille de nos souvenirs d'enfance. Historien, je ne sais pas, mais archéologue, certainement. Qui n'a pas rêvé petit de devenir archéologue ? Qui n'a pas envié cette vie d'aventure, de savoir, de découverte ? Tintin a raison, mais Milou n'a pas tort. Car les archéologues ne sont plus des chasseurs de trésors. Ce qu'ils veulent, d'abord, c'est creuser les archives du sol et faire parler les vestiges, traverser la profondeur du temps pour mettre à jour les empreintes qu'ils laissent dans la matière. Elles peuvent être humbles, ces traces, insignifiantes même, mais en les traquant, on reconstitue des intrigues et on raconte des histoires. Comme un détective ou un petit reporter ? Oui, Tintin, mais nous ne sommes plus au temps des sept boules de cristal. L'archéologie n'est plus ce qu'elle était. On en parle aujourd'hui avec Dominique Garcia, président de l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Il a dirigé un beau livre, La Fabrique de la France, qui n'est pas seulement celle des hauts lieux et du tombeau des rois, mais la France des parkings, des lotissements, des centres commerciaux et des aires d'autoroute où le hasard des aménageurs fait sortir de terre le plus beau des trésors, celui du savoir, de ce qui fait notre passé. On en parle dans Histoire 2, avant que nous rejoigne dans la seconde partie de l'émission le plongeur et archéologue David Jaoui, ainsi que la sociétaire du jour, Adila Bedejaizou. Dominique Garcia, bonjour.
Bonjour Patrick Boucheron.
Vous êtes archéologue, c'est-à-dire que vous faites aujourd'hui ce que vous vouliez faire à 13 ans.
Oui, effectivement, ce qui me faisait rêver. Petit, je voulais faire vétérinaire ou berger, mais je me baissais et je ramassais des tessons, des clous, des petits objets. Et donc effectivement, comme tout le monde, le passé et les objets intrigants m'inspiraient.
Et vous racontez dans un entretien donné au journal Le Monde l'année dernière que c'est votre professeur de lettres qui vous a attiré dans un club d'archéologie dans l'Hérault, près du lac de Salagou, donc vous êtes un homme des frontières.
Exactement, c'est effectivement notre professeur qui nous a mené dans sa vieille R6 le mercredi après-midi et le samedi explorer le territoire dans lequel on était amené à vivre et qui nous donnait comme ça des repères, tout autre la vigne qu'on traversait ou le ruisseau dans lequel on allait pêcher, devenait pour nous un livre d'histoire, vu qu'on découvrait les traces du passé dans ces paysages.
Dans le paysage
que nous occupions.
Oui, exactement. Dominique Garcia, vous êtes professeur d'archéologie à l'université d'Aix-Marseille. Vous y enseignez les antiquités nationales, ça fait quelque chose quand même, et la proto-histoire européenne. Et, je l'ai dit, vous êtes également président de l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, qui fête ses 20 ans cette année. On va y revenir. Votre terrain de recherche, c'est la Méditerranée. Vous avez fouillé en Grèce, en Italie, en Syrie, mais surtout dans le sud de la France, des sites de l'âge du bronze. Vous y avez vu les Gaulois à l'œil nu, pour reprendre le titre d'un de vos livres très accessible, formidable, publié chez CNRS Éditions. Or, vu de près, ces Gaulois, ou nos antiquités nationales, ne sont plus ce qu'elles étaient au temps de notre enfance, et vous amène au fond à défaire la légende des peuples.
Oui, effectivement, montrer que les peuples ne sont pas des entités immuables et qu'elles ne sont pas nées de rien, mais que justement une culture, ça se construit, ça se transforme, ça s'impose parfois, mais donc que l'archéologie, grâce aux objets que l'on retrouve, permet de définir ce qu'est une culture, c'est qu'une identité, voire ce qu'est une société ou une civilisation. C'est le côté matériel de notre démarche, de notre discipline, permet de donner un contenu, parfois à des mots un peu abstraits.
C'est ça. Et je me permets de vous citer à nouveau, toujours dans le même entretien accordé à Pierre Barthélémy dans Le Monde, « Faire de l'archéologie, ce n'est pas tant attribuer des racines à certains qu'offrir des repères à tous, de permettre d'inscrire sa propre histoire dans un paysage qui garde des traces laissées par d'autres avant, et le paysage étant appelé à changer ou à s'agrandir. » Et à lire ce beau livre « La fabrique de la France », on comprend que ce ne sont pas des mots, que c'est très concret.
Oui, c'est évident, c'est de dire le paysage dans lequel on habite aujourd'hui, que l'on traverse, sur lequel on arrive, est un paysage dans le qui a sa propre histoire. Mmh. Et que lire l'histoire de ce paysage, du pays dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce n'est pas se recentrer, c'est au contraire s'ouvrir au monde, c'est-à-dire essayer de voir des repères grâce aux objets de relations commerciales, de migration, de mise en œuvre des cultures que nous évoquions tout à l'heure.
Alors, nos auditeurs ne sont peut-être pas tous conscients de l'importance de ce cadre législatif de l'archéologie préventive qui a révolutionné le monde de la recherche. Donc, on peut l'expliquer à nouveau, quels sont ses enjeux politiques. Tout commence par une loi qui définit l'archéologie préventive, la grande loi du 17 janvier 2001, qui est une loi de combat, celle de toute une génération d'archéologues, Alain Schnapp, Jean-Paul Demoule, puis vous-même.
Oui, effectivement, la loi de 2001 est une loi qui essaie de tracer un cercle vertueux, celui donc de l'archéologie préventive, où les archéologues interviennent en préalable aux travaux d'aménagement. Donc on ne fait pas comme on le faisait naguère entre les années 60 et donc 2001, à se mettre face au bulldozer pour les stopper, ou la nuit aller fouiller les sites pour éviter qu'ils soient détruits le lendemain matin. Nous, on intervient aujourd'hui dans le cadre de la loi sur l'archéologie préventive, lorsqu'il y a des études d'impact qui sont demandées, on sonde le sol pour voir s'il révèle des vestiges, si ces vestiges ont du sens d'un point de vue patrimonial, d'un point de vue scientifique, et sur prescription de l'État, si le sol revêt un intérêt, à ce moment-là, les archéologues interviennent et essaient de sauver le patrimoine ou de le restituer par l'étude. C'est là où peut-être le concept peut choquer, c'est-à-dire que l'archéologue va démonter le site, l'étudier, le laisser libre à l'aménagement, et ensuite ce qui va être transmis, ce n'est pas le site, mais l'histoire du site.
C'est ça, mais quand même, quand on dit loi de combat, le combat il continue, parce que après 2001, on ne va pas rentrer dans l'histoire institutionnelle, mais les aménageurs et les forces politiques qui les défendaient, eh bien, ont lutté contre ce qu'ils appelaient le risque archéologique, et il a fallu lutter quand même.
Hein. Alors il a fallu lutter, parce que cette loi, effectivement, qui faisait du casseur le payeur, c'est ça le principe de l'archéologie préventive. C'est vous construisez une autoroute, vous devez faire de l'archéologie en préalable, et voter en 2001, en 2002 est créé l'Institut National d'Archéologie Préventive, et dès 2003, donc très rapidement, on essaie un petit peu de démonter la loi pour essayer de rétablir, en fin de compte, de redonner de la force aux aménageurs. Et donc, effectivement, pendant de nombreuses années, les archéologues vont lutter, mais vont aussi démontrer que cette archéologie a du sens et que les découvertes archéologiques peuvent être partagées dans l'intérêt de tous, des citoyens, donc parfois des aménageurs. Aujourd'hui, le cadre, très honnêtement, est apaisé et chacun voit qu'en fin de compte, chaque site aménagé peut révéler des vestiges, et donc au fur et à mesure que l'on voit nos paysages se transformer, c'est aussi notre histoire qui est enrichie, et ce sont des vestiges archéologiques également, qui viennent enrichir les musées, et qui donc, en fin de compte, participent à un développement culturel, mais également économique des territoires.
C'est ça, notre histoire, mais une histoire ouverte, plurielle, éparse, profonde. Faut quand même donner quelques chiffres, donc 20 ans de l'INRAP, qui est aujourd'hui la structure archéologique la plus importante en Europe, 2300 collaborateurs, 55 000 opérations archéologiques sur 170 000 hectares. Ça, c'est important parce que c'est au fond l'extension territoriale et la profondeur du temps qui caractérise cette histoire.
Alors effectivement, depuis 2002, 50 000 sites fouillés. Il faut savoir qu'en France, chaque année en moyenne, c'est 700 km² qui sont aménagés, et donc potentiellement 700 km² d'archives du sol qui sont détruites. Les archéologues ne s'intéressent à 10% environ de cette surface-là, et essaie de révéler cette histoire sur le temps long, des premières occupations humaines, il y a 1 million d'années, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, voire des périodes encore plus récentes.
Tout ça, votre livre « La fabrique de la France », qui est paru sous votre direction l'année dernière, l'explique et l'illustre magnifiquement, mais l'histoire continue, et je conseille à nos auditrices et auditeurs l'excellent site de l'INRAP, qui donne régulièrement des nouvelles de l'archéologie. Alors la dernière en date correspond parfaitement à l'idée qu'on peut se faire au fond du trésor. On doit poser un échafaudage dans la croisée du transept de Notre-Dame de Paris. L'INRAP est alerté, on tape sur une sépulture, on trouve un sarcophage de plomb du XIVe siècle. La ministre de la Culture fait un communiqué de presse le 14 mars, là tout le monde est content. C'est une découverte, c'est un trésor, mais il n'y a pas que ça.
Alors effectivement, il n'y a pas que ça, parce qu'en fin de compte, les archéologues suivent depuis 3 ans, depuis malheureusement le désastre, l'incendie de Notre-Dame de Paris, suivent les travaux pour permettre à ce que cette reconstruction, cette restauration de Notre-Dame de Paris n'efface pas les traces plus anciennes. Donc vous avez évoqué ce sarcophage qui est fouillé par mes collègues actuellement, et plus encore la découverte du jubé du XIIIe siècle qui avait été détruit au XVIIIe siècle, dont quelques fragments sont conservés aujourd'hui au musée du Louvre, mais dont les fouilles actuelles révèlent des éléments de qualité avec de la polychromie. On a là une belle découverte. On s'aperçoit que ça sera peut-être la première renaissance de Notre-Dame. Refaire apparaître, littéralement, mettre au jour des vestiges oubliés depuis le XVIIIe siècle et le partager avec le plus grand nombre.
Il y aura plein d'histoires à raconter. On trouve dans votre livre le bras gauche d'un néandertalien retrouvé au pied de la falaise de Tourville, en Seine-Maritime, mais on trouve beaucoup de sépultures, évidemment, mais aussi tout un monde d'objets. Depuis l'âge du bronze, avec cet extraordinaire dépôt de Faresbes-Villers, en Moselle, riche de 131 objets, qui pose la question de, au fond, pourquoi on dépose des trésors quelque part, jusqu'à ces chinoiseries trouvées dans un dépotoir des années folles, près de Lyon, qui témoignent du goût pour les objets de luxe venus d'Extrême-Orient, vases chinois de Canton, coupe japonaise d'Imari. C'est intriguant cette question du dépôt. Qu'est-ce que c'est qu'un dépôt?
Alors le dépôt serait aujourd'hui ce qu'on appelle un mot valise. En fin de compte, il faut voir que l'archéologie préventive, c'est l'éloge du quotidien, c'est l'éloge de l'ordinaire. Et donc ce qu'on retrouve, en fin de compte, ce sont les vestiges, les traces, les empreintes, vous le soulignez, laissées par toutes les populations qui occupaient notre territoire. Ces dépôts sont en fin de compte bien souvent des poubelles qui ont été des rejets des habitats, et les archéologues aujourd'hui les analyse comme étant des tout, un petit peu comme un lot d'archives dans lequel on l'analysera en tant que tel, comment il a été constitué, mais également à l'intérieur, chaque document est analysé et on essaie d'en tirer le meilleur.
Et c'est effectivement un paradoxe archéologique, en fait, pour démontrer, c'est un des enjeux de la fabrique de la France, ces histoires connectées, des populations qui circulent, eh bien, on doit le faire à partir de l'immobilisation de la richesse. Et l'autre paradoxe archéologique, c'est qu'il faut détruire pour découvrir. C'est que l'archéologue produit sa documentation en même temps qu'il la démonte, d'où le recours aux sciences de l'environnement pour lire des traces qui sont parfois très peu spectaculaire. On parlait du paysage. Le Moyen-Âge n'est plus ce qu'il était parce que l'archéogéographie a retrouvé, mais dans presque rien, en passant les terres noires au Tamis, une autre conception de l'habitat.
Effectivement, la notion d'archéologie préventive a transformé notre pays en grand site archéologique et a un petit peu fait exploser la notion de site archéologique. Mmh. Le site archéologique que nous avions en tête enfant, c'était la villa romaine protégée monument historique, l'église qui ne bougeait pas, le dolmen à l'angle de deux chemins. Aujourd'hui, l'archéologie préventive, ce sont ces paysages transformés par l'homme, et donc l'objet archéologique peut-être à la fois un fragment de jubé dans un site prestigieux Notre-Dame de Paris, ou des pollens analysés par des environnementalistes qui permettent de voir l'évolution des paysages à partir de ces micro-traces.
Histoire 2. Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour Adila Benejaizou.
Bonjour.
Ce qu'on va voir dans la deuxième partie de l'émission, c'est qu'avec l'archéologie, justement, on peut faire droit à une histoire qui ne laisse pas de traces ou qui n'a pas encore été écrite.
Exactement. Ce que j'ai touché du doigt en lisant votre très beau livre, La fabrique de la France, c'est que l'archéologie parce que c'est une histoire matérielle, et en plus l'archéologie préventive, parce qu'elle est provoquée non par le chercheur, mais par un programme d'aménagement du territoire, elle fait surgir des histoires non écrites. Soit parce qu'elles se sont déroulées dans un monde sans écriture, soit parce que personne n'a jugé bon de les écrire.
Eh bien, on en parle tout à l'heure. Toujours en compagnie de l'archéologue Dominique Garcia, président de l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, qui fête cette année ses 20 ans, et directeur d'un beau livre collectif, La Fabrique de la France, que nous feuilletons, en compagnie de la sociétaire du jour, Adila Benedjaizou, pour y découvrir une autre histoire de France, et pas seulement dans l'Hexagone.
En Guyane, par exemple, où lors de recherches pour le centre spatial, donc pour le lanceur fusée Ariane, on trouve des traces d'occupation amérindienne qui datent de 4500 ans avant notre ère. Des outils en pierre polie. Et alors là, le passé percute le futur avec une force inégalée. J'avais le sentiment d'être dans 2001, Odyssée de l'espace. On trouve aussi des sites d'habitation précolombiens, plus proches de nous, et ce qui permet aux quelques Amérindiens de Guyane, puisqu'ils représentent encore 5% de la population, d'avoir accès à leur histoire avant la colonisation et l'occupation. Et c'est ça qui m'a transportée dans cette archéologie histoire matérielle, c'est qu'elle fait l'histoire des régions ou des populations dont on n'a pas cru bon de faire l'histoire, justement. Dans votre partie Histoire connectée, il y a plusieurs chapitres, un très beau sur des traces de populations musulmanes au 8e siècle en France, un autre sur l'archéologie du judaïsme, et autant d'histoires qui ne sont pas racontées dans les archives, qui sont bien souvent écrites par les membres de l'Église catholique. Et je trouve ça très fort, pour paraphraser Gayatri Spivak, les subalternes du passé peuvent nous parler, et il faut savoir les entendre, et l'archéologie permet de les entendre.
Dominique Garcia.
Merci, moi ça me touche énormément, parce que d'une manière générale, on parlait tout à l'heure des Gaulois, c'est la même chose. Oui. C'est donner la parole à des gens qui n'avaient pas accès à l'écriture et qui nous ont pas laissé ces traces-là. Et aujourd'hui, quand l'INRAP travaille dans les territoires ultramarins, il n'y travaille pas comme étant dans des espaces, des miettes d'un empire colonial. Il analyse justement de manière humble pour connaître l'histoire de ces territoires dans des espaces régionaux beaucoup plus larges. Lorsqu'on fouille à La Réunion, on étudie l'histoire de l'Afrique du Sud et de l'océan Indien. Lorsqu'on fouille à la Martinique, c'est l'ensemble des histoires des Caraïbes qui sont établies. Et lorsqu'on travaille à Guyane, sous un pas de tir d'Ariane 6, et bien effectivement, on étudie l'espace amérindien, qui est effectivement un champ de découverte, un laboratoire hors les murs, extraordinaire. Et donc, on a là des vestiges qui sont fouillés précisément, une histoire qui était peu connue et qui est rendue de manière tangible par la découverte de ces objets. Et puis, en élargissant dans les prospections, notamment, on retrouve des sites sous la forêt. Mmh. Et élément extraordinaire de ces dernières années, c'est que les prospections qui ont eu lieu avec un système LIDAR, donc d'analyse aéroportée, a permis de découvrir des aménagements sous la forêt et de montrer que ce qu'on appelle la forêt primaire, cet espace naturel, était pendant de longues périodes un espace cultivé avec des champs, avec des villages, avec des routes. Et donc on retrouve cette civilisation même là où on pensait l'avoir totalement cachée et où même la nature paraissait être là depuis toujours.
Autre chapitre surprenant, partons par exemple sur l'île de Tromelin dans l'océan Indien. Là, le sable est blanc, mais sur cette plage se noircit aussi une page blanche dans l'histoire de France, Adila, celle du naufrage d'un bateau de la Compagnie des Indes, parti de Bayonne pour l'île Maurice, puis Madagascar, et qui fait le naufrage le 31 juillet 1761. C'est aussi une histoire de réparation, d'une certaine manière.
Tout à fait. Une île qu'on pourrait qualifier d'îlot, parce qu'elle ne fait pas plus de 1 km carré, et sur laquelle s'échoue un navire qui transporte 160 esclaves capturés à Madagascar. 80 d'entre eux se noient dans le naufrage car ils sont enfermés dans les cales, mais 80 en réchappent et une centaine de membres de l'équipage en réchappent aussi. Avec les restes du bateau, cet équipage va parvenir à construire un bateau de fortune et quitter l'île en laissant les 80 malgaches avec des promesses de retour. Il faudra attendre 15 ans pour qu'un bateau vienne secourir ces personnes. Il ne reste plus que 8 rescapés sur l'île, 7 femmes et un bébé de 8 mois. On n'a aucune idée de comment ces personnes ont fait pour survivre sur cet îlot de 1 km carré, quasiment sans végétation, qui est souvent immergé. Et ce sont les archéologues, après un travail minutieux, qui ont réussi à nous restituer leurs conditions de survie.
Avec notamment un petit récipient en cuivre rapiécé à 8 reprises qui parle de cette survie par la réparation.
Et dernier élément sensible, ces malgaches habitaient à Madagascar dans des maisons en habitat périssable, donc construit avec essentiellement du bois. Lorsqu'ils vont être sur le petit îlot de Tromelin, il n'y a pas de bois et ils vont construire la maison selon la forme de la seule structure en matériaux en dur qu'ils connaissaient, c'était celle des tombes. Donc ils vont habiter là dans des maisons construites comme ils construisaient leurs tombes à Madagascar.
Et ce qu'il y a de très beau, c'est que lorsqu'on revient en France après ces longs voyages, eh bien l'histoire de France s'en trouve transformée. Vous parliez des Gaulois, de vos Gaulois, justement, Dominique Garcia. Eh bien, retrouvons vos sociétés celtiques avec la découverte fortuite dans l'Aube à Lavaux en 2014 de la tombe d'un prince celte dont on comprend très vite qu'il était connecté avec les élites méditerranéennes. On écoute.
Pour l'histoire, il deviendra sûrement le prince de Lavaux. Lavaux du nom de la commune où les fouilles ont lieu depuis 5 mois. Ce n'était qu'un champ. Sous les doigts des archéologues, c'est devenu une nécropole celtique unique en Europe à l'âge de fer. La taille et le faste des objets traduisent l'importance du personnage, souligne Bastien Dubuis, le responsable de la fouille.
C'est un monument de très grande taille, qui est plus grand en fait que la cathédrale de Troyes par exemple. Donc tout ça pour enterrer un personnage, c'est quand même incroyable. Le défunt est accompagné d'un char. Et le plus important, c'est qu'il est accompagné de vaisselle dédiée au service de la boisson.
Un chaudron en bronze d'un mètre de diamètre, des assiettes, une cruche intacte en céramique au motif noir. Tout est de style grec, détaille l'archéologue Émilie Millet.
En fait, vous avez ici, vous l'apercevez, un personnage masculin qui est assis. Il s'agit de Dionysos. Ce qui est particulièrement original, c'est le fait que cette pièce est rehaussée d'or au niveau de sa lèvre, sur l'entrée, l'embouchure en fait, de cette cruche.
Dans quelques jours, les archéologues exhumeront le squelette du prince de Lavaux. Alors, ils pourront faire parler son ADN.
Et comme c'est aussi une histoire d'interdisciplinarité, il y a l'ADN, mais il y a aussi les analyses chimiques et les analyses du pollen dans le chaudron en cuivre qui démontrent qu'il contenait du vin, mais pas n'importe quel vin, un vin rouge, miellé et aromatisé à la mode méditerranéenne avec force sarriette, myrrhe, gentiane.
Effectivement, dans cette tombe, on a le banquet au complet, le grand chaudron, les vases à boire, une nocoé customisée, une nocoé attique avec des éléments en or qui ont été rapportés. Et donc, le prince s'est fait enterrer là avec les éléments les plus forts symbolisant son pouvoir. Ce prince à la tête d'un état émergent entre la Méditerranée et le nord de l'Europe, qui permettait en fin de compte de connecter deux espaces, les cités-états méditerranéennes et les zones d'approvisionnement en étain et en ambre du nord de l'Europe.
Et là, on rejoint, Dominique Garcia, ce que vous pensez devoir être voilà, une étude de l'archéologie nationale, c'est-à-dire pas de l'identité des peuples, mais au contraire de leur circulation.
Alors c'est intéressant, on se retrouve là, non loin du pas de Bourgogne, non loin de la découverte de Vix, non loin des lieux des marchés de Troie, des périodes un peu plus récentes, et on s'aperçoit que dans cet espace, on a là les clés d'une lecture connectée, effectivement, de la Méditerranée et de l'Europe.
Eh bien, suivons la piste du vin et de l'huile, elle va nous mener jusqu'au fond des mers. David Jaoui, bonjour, vous êtes au téléphone avec nous. Vous êtes archéologue, plongeur au musée départemental Arles Antique et vous avez mis en intrigue votre pratique de l'archéologie sous-marine sous la forme d'enquête archéologique. C'est le titre de votre très beau livre paru chez Errance Actes Sud qui a obtenu le Grand Prix 2021 du livre d'archéologie. Sous-titre, on va y revenir, l'affaire Valerius Proculus. Mais d'abord, expliquez-nous, c'est l'archéologie sous-marine et c'est dans le Rhône et c'est pas simple en fait, hein, c'est dangereux de plonger dans le Rhône.
Non, tout à fait. Dans le Rhône, dès qu'on s'immerge dans le Rhône, en fait, on n'y voit rien. Donc on a un problème effectivement de visibilité, on a des courants plus ou moins forts, on a également quelquefois des silures qui peuvent nous attraper la palme, donc ça crée une certaine anxiété, mais ça vaut quand même le coup. Hein, parce que dès qu'on plonge dans le Rhône, on a des millions d'amphores. On sait aujourd'hui qu'on a au moins une trentaine d'épaves antiques. Donc on a vraiment l'une des réserves archéologiques les plus importantes au monde qui sont juste à quelques mètres sous l'eau.
Bon, il n'y a rien à faire. Hein. On essayait d'écarter la pratique archéologique de l'aventure et de l'héroïsme. Mais avec vous, David Jaoui, on y est. Donc ce qui s'est passé d'abord, c'est que vous avez levé avec d'autres, évidemment, cette extraordinaire épave d'Arles.
Oui, c'était un chaland gallo-romain de 31 mètres de long pour 3 mètres de large avec une cargaison de pierre et qui était recouvert par 900 mètres cubes de dépotoir portuaire. Donc du coup, pour arriver à renflouer ce bateau, on l'a découpé en 10 morceaux. On devait travailler à flux tendu, c'est-à-dire en fouillant le dépotoir et en procédant à un levage. Et on a reconduit cette opération 10 fois pour avoir la totalité du bateau, 31 mètres de longueur. Donc ça, c'est vrai que c'était une mission absolument extraordinaire qui s'est tenue en 2011 et qui a nécessité l'agrandissement du musée pour accueillir ce bateau, l'un des bateaux les mieux conservés de toute l'Antiquité, car on a retrouvé sa cargaison, on a retrouvé la dotation de bord des marins et quelquefois leur nom marqué dessus. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on a retrouvé le mât de halage. Ouais. Le mât de halage, c'est un mât où on attachait une corde à l'extrémité pour le tirer, pour le tracter, pour remonter le Rhône. Donc le mât était assez étonnamment conservé sous la cargaison de pierre. Donc on a pu le remettre en place dans le musée.
Tout ça, on le voit dans le musée départemental Arles Antique. Alors, on voit aussi des amphores, donc peut-être que le visiteur va dire, ouais, ok, des amphores. Mais avec vous, ça devient passionnant, parce qu'évidemment, vous les lisez, il y a des enquêtes, il y a des énigmes, il y a ce fameux Valerius Proculus. Alors, pourquoi c'est une affaire, Valerius Proculus ?
L'affaire Valerius Proculus, c'est le cœur de l'enquête. En réalité, c'est dans le livre, on voit plusieurs énigmes qui vont s'alimenter et s'enrichir. Et c'est vrai que au cœur, c'est ce personnage dont le nom est inscrit sur une cruche, donc ce qui était assez étonnant, car en général, on a des inscriptions peintes, mais uniquement sur les amphores. Là, on avait deux lignes sur une petite cruche de 14 cm, donc ça éveillait évidemment notre curiosité. Et à partir de là, on a enquêté sur ce personnage. Il y avait marqué Valerii Proculi sur la cruche. Valerii Proculi, c'est le génitif, c'est-à-dire le complément de nom. On savait que c'était le propriétaire de la cruche. Et à partir de là, chacun des mots, des groupes de lettres, j'allais dire, on les a identifiés en émettant des hypothèses. Et à la fin de toute cette réflexion, on avait envisagé que ce Valerius Proculus était propriétaire d'un chai produisant le célèbre albanum. L'albanum, pour nous, c'était une hypothèse vraiment intéressante, parce que c'est un très grand vin des monts albins. Donc on est dans le Latium, on est qui intègre la ville de Rome, et à partir de là, on a commencé à rechercher ce personnage, parce qu'au début, des Valérie, c'est vraiment très commun comme nom. Mais au fur et à mesure de l'enquête, on arrive à recueillir différents indices. l'indice chronologique, ce qui permet de diminuer le nombre de Valéry Proculi. Ensuite, on imagine qu'il a un statut social extrêmement important, puisqu'il est propriétaire d'un chai produisant le célèbre Albanum, encore une fois, je le dis, hein, l'un des plus grands vins de l'Antiquité. Et surtout, ce personnage, on doit le localiser normalement au pied des monts Albanes, c'est-à-dire dans un espace géographique extrêmement précis. Et à partir de là, on enclenche la recherche. Alors effectivement, vous parliez d'ADN, de recherche ADN, et je fais toujours le parallèle avec des enquêtes policières. Nous, on a des moteurs de recherche épigraphiques. Donc on rentre le nom de ce personnage, et à partir de là, on a des données, des stèles funéraires qui apparaissent avec ce nom, et on localise le latium, et on espère, dans cette inscription qui se trouve dans le latium, où on a un Valerius Proculus, qui retrouvait une indication toponymique, c'est-à-dire une indication du lieu de la découverte.
Ce qu'il y a de formidable dans votre livre, David Jaoui, on vous remercie, c'est que justement on suit l'enquête, y compris collectivement, parce que vous vous envoyez des mails entre spécialistes. Dominique Garcia, c'est bien ça, hein, l'archéologie.
Effectivement, l'archéologie, c'est l'enquête, c'est aussi se pencher sur des matériaux humbles. David l'a bien dit, une amphore, c'est tout simplement un élément jetable, c'est un récipient non récupérable. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a derrière la vie, l'économie, la société. Et aujourd'hui, les archéologues arrivent à le mettre en avant. Et dans l'exemple d'Arles, en plus, c'est de ressortir le chaland, de l'exposer et de faire de cette fouille un élément d'attraction important pour ce beau musée.
Alors, vous l'avez dit, hein, d'ailleurs, les dépôts archéologiques, c'est quand même souvent des dépotoirs. Hein. On va fouiller les poubelles et les contenants, l'équivalent de l'amphore, bah, c'est la boîte de conserve ou même la bouteille de coca. Lors des débats de l'Assemblée nationale de la fin de l'année 2002, où certains, effectivement, revenaient, tentaient de remettre en cause la loi sur l'archéologie préventive, un député utilisa un argument massu. Comment ça, des dizaines de millions d'euros pour fouiller dans le Calvados des stocks de bouteilles de Coca-Cola? Est-ce bien raisonnable, Dominique Garcia?
Alors oui, parce qu'en l'occurrence, mon collègue Cyril Massini se penche sur l'étude notamment des sites de la Deuxième Guerre mondiale et l'analyse archéologique de ce site, de ce trou d'homme avec la découverte de cette bouteille de Coca-Cola, a montré qu'on n'était pas là dans un site qui était américain, ce qui aurait pu laisser penser la bouteille. Mais les éléments typologiques ont montré que c'était du Coca-Cola ou d'une bouteille fabriquée en Allemagne et qu'on était là sur un site allemand. C'est un petit clin d'œil, mais surtout ça montre que l'archéologie peut aussi éclairer l'histoire de périodes récentes et notamment la Première et la Deuxième Guerre mondiale.
Mais justement, c'est un petit clin d'œil, mais en même temps qui est en rapport avec l'enquête et parfois l'enquête criminelle, Adila Benedjaizou. C'est pas par hasard que David Jaoui nous parlait d'enquêteurs sur une scène de crime.
C'est l'enquête de David Jaoui, d'ailleurs, ainsi que vos récits de fouilles, qui m'ont fait penser à cette nouvelle discipline développée dans les ONG qui interviennent dans les grands procès internationaux, qui s'appelle la forensic. Forensic, ça veut dire, en anglais, c'est utilisé pour désigner la médecine légale, mais ça a été aussi théorisé par Eyal Wiesman, qui est un architecte, pour désigner une pratique destinée à faire parler les objets inanimés. Et Eyal Wiesman le dit, il a non seulement le pouvoir de faire parler les morts, mais aussi les villes et les peuples. Ainsi, dans le désert d'Atacama, au Chili, il y a des médecins légistes, des archéologues, des anthropologues qui fouillent pour retrouver les restes corporels des victimes de la répression chilienne. Alors évidemment, il s'agit pas du tout de remplacer les témoins dans ces massacres, mais de leur offrir l'aide du témoignage des objets, des bâtiments, dans des procès, dans des discussions où l'enjeu mémoriel est fondamental.
Dominique Garcia.
C'est un élément essentiel pour lequel les archéologues, ou du moins les techniques de l'archéologie, sont mis aujourd'hui au service de la justice au niveau national et au niveau international. Aujourd'hui, nombre de mes collègues et certains de mes étudiants travaillent en Catalogne espagnole pour essayer de repérer les charniers de la période de la guerre civile en Espagne. Mais en France, on travaille également de concert avec les gendarmes et les juges. Certains de nos collègues ont travaillé sur le dossier de l'affaire de la jeune Estelle Mouzin, et on continue à poursuivre parce que l'œil de l'archéologue, de l'anthropologue, permet d'en savoir plus et peut-être parfois de pointer des indices.
C'est ce que vous appelez rendre l'objet bavard, Dominique Garcia. Alors il n'y a pas que les objets qui sont bavards, on est déjà à la fin de cette émission, mais je voudrais terminer sur une note plus ancienne et qui d'une certaine manière nous ramène à cette émotion de la découverte dont on pense effectivement que l'archéologie préventive a éteint l'enthousiasme, mais en fait, l'a simplement relancé. Il y a par exemple dans votre livre ce beau récit de l'affolement d'une fin de chantier à Angoulême le 20 novembre 2018 et la découverte fortuite d'une plaque de grès incisée du paléolithique supérieur de la période dite asilienne, c'est en référence au mât d'Asile en Ariège, moins 12 000, où les artistes normalement abandonnent la figuration animale pour les motifs géométriques, mais là, une silhouette se détache, pas de doute, c'est un cheval.
On a retrouvé ces décorations, c'est les fouilles de Miguel Biard, et qui montrent en fin de compte là aussi que l'archéologie peut révéler des éléments sensibles, des éléments du quotidien, quand l'archéologue ne fait pas que fouiller dans les grottes et regarder sur les parois, mais également sous ses pieds. Voilà, c'est ce que j'appelais tout à l'heure cette archéologie et cet éloge du quotidien, une histoire qui colle à nos semelles, mais qui nous permet aussi de lever le regard et de s'ouvrir vers le monde.
Eh ben, c'est exactement ça, merci. Merci Dominique Garcia, merci Adila Benedjaizou et merci David Jaoui qui était avec nous au téléphone.
Merci à vous.
Merci.
Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Xavier Pestugia. La technique était assurée aujourd'hui par Pierre-Yves Derolin. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques sur le site de France Inter à la page de notre émission. Bon dimanche sur France Inter.